Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. Nous continuons notre rencontre avec la culture et le peuple Sioux Lakota. Avec le livre de Maurice Rebex, Rêveur de tonnerre. Suite du premier chapitre, Rêveurs d'ombre, chez les rêveurs de tonnerre. Ces photographies, prises au milieu des Lakota, sont donc le fruit du temps. Le temps consacré à faire connaissance, à se voir, à se revoir, à se lier, à s'apprécier au fil des semaines, des mois, des années. Le temps mis à se rendre ici ou là, à la merci des facéties de la mécanique, quand les déplacements se font dans un espace immense, et au volant de véhicules, perpétuellement rafistolés. Le temps passé, à se serrer la main, les yeux ailleurs, jusqu'au jour où, la connaissance mutuelle grandissant, on accepta enfin de rencontrer mon regard. Le temps passé a tué le temps. Activité essentielle de la vie des réserves, puisqu'il faut s'y résoudre, à attendre toujours, et encore, quotidiennement et sans arrêt. Attendre que simplement le temps passe. Ainsi, ai-je dû moi aussi apprendre à attendre. Attendre qu'apparaisse le moment opportun où il ne me restait plus qu'à saisir l'appareil. À cadrer et à appuyer sur le déclencheur, simplement, naturellement, sans générer aucune perturbation, ni créer aucun problème. Après plusieurs années de visites répétées, mes amis Sioux, supposés être aussi farouchement opposés à ce qu'on leur vole leur image, font désormais appel à mes services lorsqu'une réunion familiale ou toute autre occasion particulière offre à leurs yeux le motif d'une photo souvenir. Et souvent, dans ces cas-là, les anciens sont au premier plan. Toutefois, il est vrai que pour certains, même en ces temps d'Internet et de paraboles télé, la capture de l'ombre continue d'être une source de perplexité. Ainsi, un ami de Rosebud, cas rare mais pas unique, n'a jamais consenti à être photographié, exprimant son refus dans un sourire timide et vaguement gêné. Descendant d'une famille d'hommes médecine réputée, lui-même traditionnaliste et pratiquant régulier du « Sweet Lodge ». Il n'aime guère l'idée que son image puisse être saisie sur la pellicule. Sa propre relation à la photographie allait pourtant se révéler bien singulière.
Aho.
Il y a quelques années de cela, alors que mon épouse et moi-même faisions la tournée d'adieu qui marque habituellement la fin de nos séjours estivaux, cet ami vint justement nous saluer. Nous évoquions ensemble la danse du soleil et les cérémonies auxquelles nous avions assisté cet été-là, quand il nous déclara soudain « Oui, je suis pas mal sûr qu'il y a bel et bien un grand esprit D'ailleurs, je l'ai déjà vu en photo. Inutile de dire combien cette remarque aiguisa notre curiosité. Il nous expliqua alors qu'un jour, revenant de la ville voisine de Valentin, dans le Nebraska, il avait été pris en stop par une Wachichu, une non-indienne. Débarrassant le siège passager des objets qui l'encombraient, afin qu'il puisse s'y asseoir, la conductrice avait déclenché par mégarde l'appareil Polaroid avec lequel elle voyageait. Reprenant la route, elle n'avait pas accordé plus d'importance à l'incident, cependant que lui, les yeux rivés sur le carré de gélatine, n'avait pu détacher son regard de l'image qui peu à peu s'y révélait. L'objectif, accidentellement orienté vers la portière ouverte, avait saisi un morceau du ciel. Dans cette image presque abstraite de nuages blancs sur fond bleu, notre ami avait soudain discerné une présence et senti un regard le fixer avec intensité. Il n'avait rien dit à la conductrice, rien révélé de sa vision. Mais ce souvenir l'avait, à l'évidence, profondément marqué. Était-ce la raison de sa timidité devant l'objectif? Éprouvait-il comme une crainte de l'appareil photo après avoir pu expérimenter le pouvoir que cet objet avait de saisir ainsi de telles choses? Et pourquoi me mentionnait-il cela au moment même où nous partions? Profitait-il de cette ultime occasion pour mieux se faire comprendre, pour mieux justifier ses réticences à poser devant l'appareil, veillant ainsi à ce que notre amitié n'en soit pas ternie? Comme souvent, je tus mes questions, et le silence vint sceller, plus sûrement qu'un flot de paroles ou que le jeu des analyses, la confidence qu'il avait décidé de nous faire. Nous le saluâmes avant de prendre la route, quittant la réserve cette année-là sur cette histoire d'instantané. Oh, ah. Oh, oh, ah. Cette page est illustrée d'une photo sur les flancs de la colline sacrée de Bear Butte dans les Black Hills. La carcasse faite de sol d'un sweat lodge, recouverte de peau ou de couverture. Cette structure est destinée à accueillir le bain de vapeur rituel ou inipi. Deux noms illustrent à merveille la relation des Sioux, et peut-être plus généralement des Indiens, à la photographie. Les deux plus grands noms peut-être, les deux plus célèbres sûrement. Car incontestablement, nul dans l'histoire des Lakota ne laissa d'empreinte aussi marquante que Sitting Bull, le Hunkpapa, et Crazy Horse, l'Oglala. D'autres, tels que Spotted Tail, queue tachetée, ou Red Cloud, nuage rouge, anciens chefs de guerre redoutés, jouèrent un rôle essentiel quand vint le moment de se résoudre à la vie des réserves. Mais Sitting Bull et Crazy Horse, eux, symbolisent la période de la résistance héroïque. Leurs deux noms sont devenus synonymes du refus absolu de toute soumission. Ils laissent le souvenir de guerriers indomptables, mais aussi de chefs avisés et, plus que tout peut-être, de visionnaires et de prophètes. Tous deux chefs guerriers et fins stratèges, ils accédèrent plus sûrement encore à la postérité, à travers la photographie. La sagesse qui se dégage des paroles que l'on rapporte d'eux.
Aho.
Sitting Bull, ou plutôt Sitting Buffalo. Seule traduction appropriée du nom Tatanka Iyotake, qui signifie non pas taureau assis, mais bien bison assis. Et l'auteur d'une formule célèbre qui, même sortie du contexte de l'époque, reste sans doute à méditer en ces temps de mondialisation à tout craint. Si le grand esprit avait voulu faire de moi un homme blanc, il l'aurait fait. Il met dans vos cœurs certains désirs et certains plans. Dans mon cœur, il met des désirs autres et différents. Chaque homme est bon au regard du grand esprit. Il n'est pas nécessaire pour les aigles de devenir des corbeaux. Un sentiment que Tashunka Witko, Crazy Horse ou Cheval Fou, l'homme étrange des Oglala, allait exprimer peut-être plus radicalement encore. Vous autres, hommes blancs, vous pouvez travailler si vous le voulez. Nous ne vous gênons nullement. Mais à nouveau, vous nous demandez pourquoi ne devenez-vous pas civilisés? Nous ne voulons pas de votre civilisation. Nous voulons vivre comme le faisaient nos pères et leurs pères avant eux. Et c'est en peu de mots que le même Crazy Horse allait synthétiser l'esprit des luttes anticoloniales du siècle à venir. Et la prise de conscience environnementale de l'époque actuelle. Nul n'a le droit de vendre la terre que son peuple foule du pied. Quelle trace la photographie alors naissante sut-elle conserver de ces deux personnages emblématiques, de ces deux figures hors du commun? Ils eurent à son égard des positions diamétralement opposées, et malgré tout, singulièrement complémentaires. De Sitting Bull, il reste d'assez nombreux portraits. Sur plusieurs d'entre eux, et à différentes périodes de sa vie, il fait face à l'appareil et fixe l'objectif. Son regard sévère laisse aussi poindre une profonde tristesse. Comment ne pas la comprendre, alors qu'au moment même où il assiste à la disparition du monde ancestral des siens, il se prête délibérément au jeu des blancs et pose devant leur boîte à enfermer les images. Sur l'un de ses portraits, vêtu d'une chemise de calicot clair, à petits motifs et sans col. Ses longues nattes enveloppées de fourrure de loutre, deux plumes d'aigle dressées dans les cheveux. Il apparaît affecté d'un strabisme prononcé qui semble accentuer l'intensité avec laquelle son regard nous perce. Prenez le temps d'observer cette image, d'y entrer pleinement, de vous y concentrer. Peut-être, comme moi-même, en viendrez-vous à vous interroger. Qui, en effet, observe qui? Quand nous nous plongeons dans le regard du vieux sage blessé. Et pour user du vocabulaire propre à la photographie, comment ne pas éprouver le sentiment troublant qu'un véritable contact se révèle, puis se fixe dans l'image de cet homme qui, à son tour, nous regarde et dont la puissance, le mystérieux pouvoir, deviennent soudain comme sensibles? Nous faut-il, là aussi, accepter de reconsidérer la théorie qui voudrait qu'un peu de l'esprit d'une personne soit capturé à la surface du film? À prendre le temps d'observer cette image avec attention. Sitting Bull, ressurgit du passé. N'est-il pas présent au point qu'on puisse soudain palper de quoi cet homme-là était fait? sentir une part de ce qui remplissait son âme. De Crazy Horse, au contraire, il ne reste aucune trace visible. Aucun dessin, aucune gravure, aucune photographie. Aux États-Unis, certains s'ingénient malgré tout à vouloir le reconnaître sous les traits de tel ou tel Indien, dont le cliché resté non légendé autorise toutes les hypothèses. Mercantilisme oblige. Ils vont clamant détenir l'authentique portrait du vrai chef Crazy Horse. Mais la vérité est plus simple. Crazy Horse n'a jamais accepté, jamais toléré que son image soit saisie. Et l'on dit qu'il avait coutume de répondre aux demandes des photographes. « Ami, pourquoi veux-tu raccourcir mon existence en m'enlevant mon ombre ?» Du coup, chacun peut imaginer Crazy Horse à sa guise et sous les traits que lui dessine sa propre imagination. Nulle image pour l'enfermer, pour le réduire, pour le reproduire ad libitum avant de le disperser aux quatre vents. Aucune limite aux rêves qu'on fait de lui. Aucun frein aux croyances qui lui sont associées. Aucune restriction au pouvoir qu'il continue d'incarner pour son peuple. Lui dont le chef Matthew King disait « Parfois, quand je monte sur les flancs de Bear Butte, notre montagne sacrée dans les Black Hills, il me parle depuis le ciel. Sa voix est tonnerre, sa langue est éclair. » Pour que le souvenir de Crazy Horse survive de la sorte, il a fallu l'absence de toute image, de toute représentation humaine. La présence de ce personnage s'est alors prolongée dans et par le mystère, au point de faire dire à John Fire, l'ancien, « Le pouvoir de Crazy Horse est toujours là, puissant comme les étincelles produites par deux silex frappés l'un contre l'autre. » L'un a posé devant l'appareil photo, s'assurant que sa mémoire se perpétue à travers le temps. L'autre a disparu, sans laisser de traces, laissant sa mémoire, elle, se perpétuer à travers l'espace. Sur les photos des chefs et des dignitaires indiens du passé, une même qualité semble chaque fois apparaître, à la fois captivante et indéfinissable. Bien sûr, c'est d'abord la noblesse des personnages qui nous parle, leur calme, la profondeur de leur regard. Mais peut-être sentons-nous aussi poindre en eux comme une fascination mêlée d'une sourde inquiétude devant la magie de l'homme blanc. Et si l'on y réfléchit bien, le photographe de l'époque, caché derrière sa boîte et recouvert d'un drap noir comme pour mieux dissimuler ses sorcelleries, ne devait guère contribuer à dissiper cette inquiétude. Du coup, comme partagé entre attirance et crainte, les portraits de ceux d'avant semblent fréquemment trahir un incomparable et subtil mélange d'abandon et de retenue. Cette qualité photogénique particulière, je l'ai moi-même souvent ressentie, finissant par y voir un véritable trait culturel indien. Est-ce le reflet d'une certaine anxiété, à poser pour les temps futurs, après avoir été spoliés de leur passé, ou plus simplement, le désir naturel de laisser une marque digne sur la pellicule. Toujours est-il que plutôt rieur et enjoué dans la vie, les Lakota apparaissent souvent sur les photos empreints de gravité. Devant l'attrapeur d'ombre, plus que posé, il semble composé, sans artifice ni sourire forcé, mais avec profondeur. Je me souviens ainsi de ma rencontre avec M. Little Thunder, ou plus exactement, Wakian Chikala, Petit Tonnerre. Nous nous trouvions au milieu de la foule qui se rassemble annuellement à l'occasion du Rosebud Fair Powwow and Rodeo, la grande fête de Rosebud, tenue à la fin du mois d'août. Depuis un moment déjà, je ne pouvais m'empêcher d'observer ce vieil homme, au visage marqué de rides profondes, qui, un peu en retrait, admirait les danseurs du Wachipi, le Powwow, dans le bruit des grelots, des chants et du tambour. Je finis par m'approcher de lui pour lui proposer une cigarette. Un peu de ce tabac qui, souvent, sert de prélude au premier contact avec des Indiens traditionnels. Comme si lui-même, m'ayant remarqué, s'attendait à mon approche, il accepta bien volontiers la cigarette et engagea aussitôt une conversation plutôt nourrie pour un de ses anciens, en général peu volubile. Il se présenta à moi, Cecil Little Thunder. Puis il me demanda mon nom, d'où je venais, où je demeurais, me dit que lui-même avait voyagé, qu'il avait fait la guerre dans le Pacifique, vécu la bataille d'Okinawa. Malgré la douceur de sa voix et la réserve innée qui transpirait de toute une attitude, à l'évocation de ce nom-là, sa fierté de vieux guerrier devint soudain palpable. Puis tout de go, il finit par me demander si je disposais d'un appareil photo. À la fois surpris et réjoui d'une telle requête, je dégageai l'appareil que je tenais sous le bras pour lui annoncer que, de fait, j'étais photographe. Il me donna alors rendez-vous pour lui tirer le portrait le lendemain. Même heure, même endroit. Ravi de cette rencontre et de l'occasion qu'elle offrait, je le quittai, pensant qu'il reviendrait peut-être paré de ses plus beaux vêtements, ou accompagné d'un ou de plusieurs parents. Mais le lendemain, à l'heure et au lieu dit, je le retrouvai seul, et exactement semblable à la veille, coiffé du même chapeau de paille, portant le même ceinturon sur le même pantalon usé. Les yeux rieurs, comme amusés à la perspective de poser pour la photo. « Are you ready ?» Il me demanda si j'étais prêt. Braquant mon appareil vers lui, je vis alors ce vieux monsieur humble et voûté se métamorphoser dans l'instant. Il retira ses lunettes, se redressa, relevant les épaules, posa les mains sur ses hanches dans une attitude de presque défi et finit par regarder droit dans l'objectif. Après quelques clichés, je remis l'appareil en bandoulière et lui, tout aussitôt, retrouva son attitude naturelle d'homme simple et âgé, un peu fatigué par le temps. Mais tel un gamin qui vient de réaliser une bonne blague, le sourire ne le quitta plus de tout l'après-midi. Aujourd'hui encore, je reste profondément touché par l'attitude de ce vieil homme, bien décidé, quitte à tricher un peu, a laissé de lui l'image d'un vénérable brave, tout en affirmant l'éternelle jeunesse des guerriers de sa trempe. Comprenant que son ombre allait voyager avec moi au-delà de la grande rivière, sans doute a-t-il instinctivement voulu profiter de l'occasion pour dire qui il était et demeurer le maître d'une image pourtant destinée à lui échapper. Comme beaucoup d'autres Lakota de rencontre, Cécile, en agissant ainsi, m'a donné l'impression d'une compréhension intuitive, quasi spirituelle, de la photographie et de sa capacité à saisir le temps, de sa vocation à nous survivre, à parler de nous aux générations futures, comme les photos des anciens nous parlent du temps passé. Je ne dirai pas de M. Little Thunder qu'il possédait l'art de la pose, mais qu'il ait eu le sens de la pose, de l'instant fixé, arrêté pour toujours. M'apparaît comme une évidence. Pensant à ce vieux Lakota, je m'interroge d'ailleurs, me demandant si je le retrouverai lors des prochains séjours, acceptant mal l'idée qu'un jour peut-être il ne me reste plus que cette simple image pour pouvoir être de nouveau avec lui. Comme celle du vieux guerrier Petit Tonnerre, les photographies présentées dans ce livre ont été réalisées entre 1994 et 2001. 8 années durant lesquelles, à l'occasion de ces jours répétés, je parcourus des contrées qui toutes m'ont semblé exprimer une même présence. Combien de fois, en effet, observant un paysage depuis un angle que je trouvais favorable, où me paraissait le mieux s'en offrir la grâce ou la majesté, et j'eus le sentiment de me tenir là où d'autres avant moi s'étaient tenus au même exact emplacement, promontoire rocheux ou simple détour d'un ancien sentier à peine encore tracé. Et si les Indiens m'étaient connus pour leur vénération du sol et de la terre, cette dernière me sembla de nombreuses reprises vouloir leur restituer cet attachement, tant le fameux paysage américain m'apparaissait avant tout comme profondément indien. Indien dans l'âme, devrais-je dire. Car même le long des routes, à l'occasion d'un arrêt à une station-service, lors de la traversée d'une petite ville anonyme du Midwest où, le soir venu, sur le parking d'un motel de fortune, ce sentiment pouvait soudain m'envahir, me rappelant à chaque fois la sourde prophétie attribuée au chef Sylph et qui résonne avec justesse, quel qu'en soit après tout, le véritable auteur. Lorsque les enfants de vos enfants se croiront seuls, dans les champs, dans les magasins, dans les boutiques, sur les routes, ou dans le silence des bois impénétrables, ils ne le seront pas. La nuit, quand les rues de vos villes et de vos villages seront silencieuses, et que vous les croirez désertes, elles seront remplies par la foule des revenants, qui occupait autrefois cette belle contrée et continue de l'aimer. L'homme blanc ne sera jamais seul. Ah oh. Il me faut reconnaître, en effet, qu'au long de ce projet, homme blanc en terre indienne, je ne me sentis jamais seul. Hey, 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 hey. Hi. Rêveur de tonnerre de Maurice Rebex. Suite dans notre prochaine émission. Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. Merci et à bientôt dans la 4e dimension. Aïe, aïe. Yeah.